En sol majeur, Yasmine Joaquin.
Je sais bien sûr la puissance de notre imaginaire. Par exemple, si je vous dis Afghanistan, vous pensez peut-être char russe, guerre civile, taliban, occupation américaine, état islamique, Kaboul en état d'alerte. Alors tout ça, ce sont les mots des médias, mais dans la tête d'un écrivain afghan qui s'appelle Rosromani, c'est différent. Sa prison à lui, ce n'est pas le pays, mais la page blanche. Son obsession, jouer les funambules sur une corde qui flatte le flou entre fiction et réalité, voir ses 6 romans en persan au compteur. Et du coup, ce ne sera pas facile peut-être pour moi d'échanger avec Rosromani, qui n'a pas pris son passeport pour vivre dans le réel. Mais moi qui ai fouillé un petit peu dans ses papiers, je peux vous dire qu'il est diplômé en droit et en sciences politiques, qu'il a travaillé pour Radio Free Europe, était membre du Cercle des écrivains, et qu'en 2012, menacé par les talibans, il s'est réfugié en France. La langue est-elle un refuge pour lui qui publie Une petite vie ? Réponse en sol majeur pendant presque une heure. Bonjour, Rosromani.
Bonjour, Yasmine.
Quel beau prénom.
Merci.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Rosrau, c'est un mot persan. En fait, c'est un équivalent de roi.
Vous aimez bien porter ce prénom ?
Je suis obligé.
Alors, on a échangé un petit peu, vous et moi, avant de faire cette émission, et j'ai l'impression que je vous rencontre à un drôle de moment de votre vie.
C'est exact.
Dans quel moment de vie êtes-vous ?
Je pense que c'est exactement ça. Je suis... pour l'instant, un exilé, et ça veut dire que c'est pas l'état normal de ma vie. Je suis plus en Afghanistan. Je me sens pas très chez moi entre guillemets en France ni ailleurs. Et donc, je pense que c'est un peu drôle ce moment.
Alors j'ai un petit souci, vous savez, dans l'émission qui retrace le parcours des invités pour comprendre comment ils définissent eux-mêmes leur sol majeur, leur terre essentielle, on utilise souvent des archives, mais vous n'aimez pas les archives.
Non, justement parce que ma vie, mon passé, c'est vraiment douloureux. Et moi, je ne veux pas me souvenir de ce passé. Donc si vous parlez d'archives, ou je parle d'archives, ça veut dire que... Il faut que je repense à mon passé, tandis que je suis en train de fuir de ce passé. J'aime bien découvrir l'avenir.
Mais on va couper la poire en deux, si j'ose dire, parce qu'on a réfléchi. On va quand même en utiliser quelques-unes, peu, de ces archives. Et c'est pour bien sûr donner des repères à ceux qui vous écoutent, Rosrow, derrière le poste aux quatre coins du monde.
Charia islamique décrétée à Kaboul, en Afghanistan. Les milices talibans ont en effet pris le contrôle de la ville après quelques heures de combats particulièrement violents hier.
24 heures après leur victoire, les nouveaux maîtres de Kaboul affichent l'assurance des vainqueurs, sûrs de leur suprématie.
En 2 ans, les nouveaux fous de Dieu ont conquis les 3/4 de l'Afghanistan et imposé l'ordre islamique le plus rigoureux au monde.
L'ex-président afghan, Mohamed Najibullah, et son frère, pourtant réfugiés depuis 4 ans et demi dans les bâtiments de l'ONU, ont été capturés et exécutés.
Et avant, c'était comment ?
Avant les talibans ?
Ils n'osent pas répondre, les talibans ne sont pas loin.
Les États-Unis ont adressé un avertissement au nouveau régime, demandant instamment que soient respectés les droits des femmes.
Pour l'heure, on ne parle pas d'amputation, de lapidation prévue par la charia, la loi islamique, mais des témoignages font état de nombreuses femmes battues en plein centre-ville de Kaboul.
A comme acte de naissance.
Alors voilà ce que les médias occidentaux disent la prise de Kaboul en 96 par les talibans. Pour vous, Rosromani, vous êtes né en 87 à Kaboul, mais vous avez grandi dans une ville du nord en Afghanistan qui s'appelle
Mazar ou Balkh.
Quelles images vous restent intimement de cette période ?
Écoutez, à cette époque-là, j'avais 9 ans. Et je me souviens des soldats dans les rues, partout à Balkh, en Mazar. Et bien sûr, des bombardements, des personnes anti-urbanées, des cris d'Allahu Akbar, et tout ça, toutes ces choses. J'étais assez petit pour comprendre la situation de ce qui se passait dans les rues. Mais ce qui reste avec moi, c'est toujours la terreur. Voilà, après ça, j'ai grandi dans un sous-sol. Et ça veut dire que toute ma vie était une sorte de prison, je peux dire. Mais je pouvais entendre les voix, les cris, toutes les choses qui se passaient en dehors de cette prison. Je pouvais les entendre dans ma prison, dans mon sous-sol.
Pourquoi est-ce que vous et votre famille, vous vous retrouvez réfugiés dans un sous-sol?
Je vous ai dit qu'à cause des bombardements. Le sous-sol en Afghanistan, c'est construit seulement pour les bombardements. On était là-bas pour rester vivants.
Alors votre vie avant la prise de pouvoir des talibans, elle ressemblait à quoi, notamment pour votre père? Votre père qui était un membre du Parti communiste.
Ben, il était heureux parce que c'était ses régimes, voilà, son gouvernement. Il était toujours un communiste très fidèle à ses idées. Mais après 1991, c'était la chute du gouvernement du communiste à Kaboul. Et après ça, la guerre civile a commencé. Mais après ça, il était un homme qui avait perdu toute sa vie.
Alors, la guerre civile qui oppose, je le rappelle, après le départ des soviétiques, donc les communistes afghans, aux moudjahidines, ces combattants de la foi. Est-ce que votre père, lui, prend part à ces combats, à ce moment-là?
Non, mon père, il était membre du bureau central du parti. Ça veut dire qu'il était derrière son bureau, il luttait pas directement avec les moudjahidines.
Mais il était une cible.
Bien sûr, il était une cible. Je me souviens qu'il se cachait pendant 2-3 ans, quand il était à Mazar, à Balkh. C'était difficile, la vie pour lui.
L'arrivée des talibans change quoi dans votre quotidien à vous?
En fait, tout. L'école s'est fermée, la musique s'est interdite, les femmes, ils n'ont pas le droit de sortir de la maison. Moi, en tant qu'enfant, j'étais obligé de porter un turban, obligé d'aller à la mosquée pour apprendre le Coran, je ne sais pas, les hadiths, tout ça par cœur.
D'aller à la madrasa aussi?
Madrasa, avec... en fait, il n'y a pas de différence entre mosquée et madrasa, c'est pareil. Moi, j'étais un enfant très, très ambitieux. Je voulais apprendre tout et je voulais faire les choses qui étaient parfois impossibles. Voilà, l'arrivée des talibans, c'était un stop pour moi.
Pour un sol majeur sur RFI, cette musique ressemble donc à ce qu'il ne fallait sans doute pas écouter dans l'Afghanistan de votre adolescence, Rosromani. Qui est ce Ahmad Zahir?
Ahmad Zahir, il était chanteur très connu en Afghanistan.
Il est décédé, hein? Mort dans un accident de voiture officiellement, mais ça ressemble un peu à un assassinat.
Voilà, c'est un assassinat, j'en suis sûr. Il était tué par les communistes, justement, parce qu'il était un peu révolutionnaire.
Il a commis, si j'ose dire, des chansons contestataires où il...
Exactement.
Il expliquait, il relatait les massacres commis, effectivement, par le pouvoir communiste en place.
Exactement. Et même parfois, il chantait des chansons un peu... contre la religion, entre guillemets, c'est très fort cette phrase, mais quand même, il ne cessait pas de contester contre toutes les dogmes.
Et ça veut dire que vous l'écoutiez en cachette, sous les talibans ?
Exactement, dans le sous-sol mentionné, il y avait une seule cassette, et c'était sa cassette.
Est-ce que vous avez bravé d'autres interdits pendant cette période-là ?
Oui, bien sûr, lire. J'ai trouvé quelques livres d'ici, de la littérature russe du 19e siècle. Je savais bien que si les talibans ils trouvent ce que je lis, ce sera la fin de ma vie ou la vie de ma famille.
Alors parallèlement à ce décor que vous plantez rapidement, Khosrow, vous arrivez à faire des études dans cet Afghanistan et vous quittez cette ville, Balkha, pour faire vos études de droit à Kaboul en 2005, ce qui paraît insensé. Enfin, c'est presque la vie normale, quoi, ce que vous décrivez là.
Oui, mais vous savez qu'après le 11 septembre 2001, c'était plus la même situation en Afghanistan ni aux alentours de l'Afghanistan. Ça veut dire que le nouveau gouvernement en Afghanistan était un gouvernement démocratique, on peut dire. Et en 2005, la situation était très normale. Moi, j'ai profité de ce court moment de calme et voilà, j'ai étudié droit et sciences politiques à Kaboul.
Donc, le 11 septembre et l'assassinat du commandant Massoud, par exemple, ce sont des événements que vous avez, a posteriori, accueillis favorablement.
Pas la mort du commandant Massoud. Moi, je veux dire ici que j'apprécie pas beaucoup le djihad de M. Massoud. À mon avis, il était, comme tous les chefs de guerre, un chef de guerre, rien d'autre. Mais quand même, à cette époque-là, il était la seule personne qui était là en Afghanistan, qui luttait contre les talibans. Et voilà, le 9 septembre, c'était un peu douloureux pour nous. Mais aussi le 11 septembre, le massacre de beaucoup de gens aux États-Unis. Mais pour l'Afghanistan, c'était le commencement d'une nouvelle vie.
Alors on peut lire, c'est une nouvelle vie, mais évidemment ça va tourner court, puisqu'on peut lire sur le dossier de presse qui accompagne la sortie de votre livre « Une petite vie » qu'en 2015, vous êtes obligé de quitter l'Afghanistan car vous êtes menacé par les talibans.
Bah écoutez, tout le monde est menacé par les talibans, par les extrémistes en Afghanistan.
Mais vous n'êtes pas tout le monde à ce moment-là.
Oui, mais parfois c'est une menace indirecte, parfois c'est une menace directe. Dans mon cas, c'était direct.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que j'étais menacé physiquement à cause de ce que je faisais, à cause de mon travail.
Vos activités de journaliste ?
Pas seulement mon activité de journaliste, mais aussi mon activité d'écrivain. Et voilà, j'ai quitté le pays et je suis arrivé en France après quelques mois.
Vous ne pouvez pas en dire plus ?
Non, parce que je ne veux pas me souvenir.
Comment vous êtes pris en charge quand vous arrivez en France ?
Je suis allé à la maison des journalistes, c'est un vivier pour des journalistes exilés. Voilà, là j'ai rencontré des journalistes qui venaient d'Afghanistan, d'Iran, de Syrie, je ne sais pas, de partout. Et là j'ai déposé mon demande d'asile. Après 3-4 mois, j'ai obtenu mon statut réfugié. Voilà.
Trois petits points. Ça aussi, il ne faut pas en parler trop. De quoi on va parler alors ? Vous savez, ce qu'on va faire, c'est enflammer peut-être les esprits chagrins avec Elvis Presley, mais pas le Elvis Presley afghan qu'on vient d'écouter tout à l'heure, le The Real One, car vous aimez aussi l'original, Elvis Presley.
Beaucoup.
Pourquoi ?
Je ne sais pas, c'est peut-être grâce à l'Elvis afghan que j'aime l'Elvis original. Mais quand même, j'aime sa voix. C'est une voix qui me touche beaucoup.
Que vous avez écouté aussi en cachette dans votre sous-sol?
Non. Je l'ai découvert quand j'étais très grand. En même temps, il est très vivant. Ça veut dire que quand il chante, il est partout, sa voix m'entoure et je pense que je suis en train de danser avec lui. Voilà, je pense que ça, c'est la raison. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on Lonely Street, they'll never, never look back and think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be. You're so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die.
Est-ce que ça existe à Kaboul, un hôtel pour cœur brisé?
Non. Mais ça existait pendant les années 1960-70, oui.
Eh oui. Mais vous n'étiez pas né.
Non, malheureusement.
Presley en sol majeur, donc dans le déhanché très discret d'un écrivain afghan, Khosrow Mani, capable d'écrire l'œuf que vous avez acheté à un grand soleil à l'intérieur.
Est-ce que vous pouvez me décrire la manière dont vous avez décoré votre maison?
Je ne peux pas le décrire parce que la décoration, pour moi, ça n'existe pas. Ça veut dire que moi, j'aime bien les choses dans leur état normal. C'est très étrange, même pour moi-même, que parfois, je ne vois pas les choses qui existent où j'habite. Il y a des fleurs, je ne sais pas, il y a même un chaton. Là, je rentre, je ne vois pas les fleurs, je ne vois pas le chaton, même le chaton. La seule chose qui m'est importante, c'est la décoration de mes livres.
Ouais. Vous auriez le fantasme de vivre dans une immense bibliothèque?
Exactement, comme
Borges. Mais alors, est-ce que vous rêveriez quand même d'un salon de musique, un jour, dans votre maison?
Bah oui, bien sûr.
Ah, quand même?
Oui, ça oui.
Parce que ça, c'est de la déco, hein, par contre.
Oui. Vous savez, j'ai lu quelque chose sur Flaubert. Il aimait l'idée de voyage, mais pas le voyage. Moi, j'aime l'idée de beaucoup de choses, mais j'aime pas les faire.
Hujur.
Que?
Ami tara prashanno hujur.
Achla kono.
Aki ha hujur. সবাই গেলে চলবে কি করে হুজুর?
নাই বা চলল, সবই তো গেছে।
সব যেত না হুজুর, আপনি যদি একটু নজর দিতেন তাহলে জমিদারির
জমি কোথায়? জমি সবই তো জল, সব অতলে তলিয়ে গেছে, সব ভেসে গেছে, সব ভেসে গেছে।
Une larme en sol majeur du Salon de musique, film culte de Satya Jethray, qui raconte le déclin d'un aristocrate issu de la caste des Zamindars. C'est un propriétaire terrien tellement imbu de ses origines nobles qu'il va jusqu'à sacrifier fortune et famille pour laisser libre cours à sa passion, la musique. Et la scène qu'on vient d'entendre, il est dans son palais, ruiné, presque plus de meubles, tous les serviteurs sont partis, sauf un. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et le serviteur lui dit, mais qu'est-ce qu'il va se passer si on part tous? Ça ne serait pas arrivé, maître, si vous aviez fait plus attention à vos biens, à vos terres. Toutes les terres sont sous l'eau, tout a été dévasté. Et je crois savoir, Soromani, que vous vous sentez très proche de ce film de Satya Jethray. Pourquoi?
C'est qu'il parle d'un monde bien local, ça veut dire que son pays, l'Inde, et surtout le Bengal, c'est pas l'Inde, globalement, c'est une partie de l'Inde. Il parle de cette vie locale, mais en même temps, il le montre d'une façon universelle, même pour les personnes qui vivent dans d'autres pays, qui ont grandi dans d'autres cultures, ça fait sens.
Et en plus, il y a cette thématique qui, je trouve, transpire, ne serait-ce que lorsqu'on vous croise comme ça rapidement et lorsqu'on vous lit, ça se confirme, cette frontière entre l'imaginaire et le réel qui reste très, très, très floue.
Exactement. On habite dans le monde réel, mais en même temps, il y a deux mondes parallèles.
Non, vous habitez dans les livres.
Oui, bien sûr.
Vous avez 6 romans en persan à votre actif, plus un roman en français, L'Exil, qui va paraître et dont on reparlera tout à l'heure. Et je viens de lire Une petite vie, qui paraît ces jours-ci. Je dirais après lecture que vous semblez vous-même être happé, mais en dehors du réel, vous semblez happé par l'écriture. Est-ce qu'on peut présenter ce livre comme ça?
Oui, c'est une bonne description, je pense.
Comment vous expliqueriez ce phénomène de vous happé par l'écriture?
Happé, c'est quoi?
Non, mais... J'ai pas compris, là.
Happé, c'est quoi?
Happé, c'est quoi? Non, parce que vous avez un français incroyable. Hein. On peut le dire au micro. Ça fait 3 ans que vous apprenez le français. Et bon, un mot comme happé, c'est normal que vous vous demandiez ce que ça veut dire. Vous avez l'air d'être vampirisé.
D'accord.
Par l'écriture.
Oui, c'est un peu fort, ce mot.
C'est trop fort pour vous?
Oui, je pense.
Vous êtes sur le chemin de la vampirisation.
Ah ben, je sais pas, peut-être. Dans mon livre dont vous avez parlé, L'Exil, j'ai inventé, j'ose dire ça, un mot, c'est pas une invention, en fait j'ai mélangé 2 mots qui s'appellent écrit torture. Écriture et torture. Voilà, l'écriture pour moi c'était toujours ça.
Une torture.
Ça me torture.
Et pourquoi y rester alors?
Parce que j'ai pas le choix.
Ben, si, vous avez le choix de ne pas rester dans cette chambre de torture.
Non, je peux pas sortir de cette chambre. Ben, c'est comme une sorte de maladie, peut-être. La maladie de l'écriture. Et même dans la vie quotidienne, parfois, quand je parle avec les gens, quand je suis dans les soirées, par exemple, je pense que je suis dans un livre et les gens sont les personnages de ce livre. Ça, c'est une maladie, bien sûr.
Donc là, ce moment en sol majeur, c'est aussi un moment où vous êtes un personnage et moi aussi.
Bah, je pense que c'est ça. C'est peut-être une...
C'est très shakespearien en même temps.
Bah,
hein.
Oui, justement, je voulais le... Voilà. Les histoires anciennes tournent toujours autour de ces 2 choses. Partir et retrouver. Partir est difficile, trouver est aisé. Tu marches tellement que ta canne devient une aiguille et tes chaussures une pelure d'ail. À ce moment-là, tu trouves facilement un trésor dans ta main et un tapis précieux sous ton pied. La vie est douce après une douleur vive. C'est tout et rien d'autre.
Extrait en sol majeur d'une petite vie avec vous, Rosromani. Est-ce que c'est une sorte de conte moderne des mille et une nuits que vous nous racontez là ?
Bah, je pense que oui et en même temps non. Parce que là, dans ce livre, dans le troisième chapitre, il y a une sorte de référence mille et une nuits. Mais en même temps, c'est une critique de la façon classique de raconter les histoires, d'écrire les histoires. Ça veut dire qu'il y a toujours une fin. Et dans cette fin, on trouve facilement la vie douce. Tandis que dans la littérature moderne actuelle, c'est l'inverse, complètement l'inverse.
Vous, en tout cas, vous appartenez apparemment à cette nouvelle génération d'auteurs afghans qui souhaitent redéfinir les contours de la littérature afghane. Parce que ce qu'on remarque quand on vous lit, c'est que bah, vous avez vécu la guerre, mais il n'y a pas un mot dessus. Fini le réalisme au pays de Rosromani. Et pourtant, la dernière phrase de votre récit, elle nous met un doute dans la tête. La dernière phrase, c'est « Le monde après l'accident ».
Moi, je ne pense pas que j'appartiens pas à la nouvelle génération de la littérature afghane. Parce que la nouvelle génération, c'est comme l'ancienne génération. Ils parlent de la même chose. Et ils écrivent de la guerre. Mais d'une façon qui ne me touche pas, qui ne m'intéresse pas, c'est seulement une sorte de compte rendu de la guerre. C'est une sorte de reportage sur la guerre.
Le procès-verbal.
Exactement. Tandis qu'on a besoin de voir au-delà de la réalité, parfois. Et donc, j'appartiens à mon propre monde.
Et dans votre propre monde, il y a des motifs comme ça qui reviennent, des lieux un peu flous qui reviennent, comme les cafés, la musique triste, ou un personnage qui s'appelle Aleph, et c'est la première lettre de l'alphabet arabe. Pourquoi les cafés ? Pourquoi la musique triste ? Pourquoi Aleph ?
Parce qu'ils sont flous, comme vous avez dit. Café, ça peut être un café en Afghanistan ou ailleurs. Ou... Aleph, c'est une lettre, bien sûr, mais en même temps, c'est un nom.
Et c'est d'abord un nom plus qu'un personnage.
Oui, on peut le dire. Mais dans ce livre, il expliquait pourquoi j'ai utilisé ce nom et pas, par exemple, Khosrau. Parce que, apparemment, Aleph, il est un criminel. On le sait à la fin du livre. Et donc, Aleph, c'est une sorte de jeu pour dire que nous, ou moi, le narrateur, je connais ce personnage, mais je dénonce pas son identité, je dis pas son nom parce que il est quand même un criminel et je veux garder son nom.
Il entre dans le hall de son parapide. Il voit le voyageur assis sur un fauteuil le long du mur. Il dit « Je passais ». Ses yeux brillent. Il ajoute « L'obscurité est presque totale. Je ne viens jamais de ce côté-là. Il regarde comme en plein jour. Il se pose, il regarde, longuement. Brusquement, il voit le hall. Il bouge. Tout autour de lui, le hall.
Est-ce comme...
Il le regarde.
Ses âmes, ses âmes, ses âmes.
Alors, est-ce que c'est Marguerite Duras, dont on entendait la voix à l'instant, qui vous a un peu ouvert la porte de la langue et de la littérature française, Rosro?
Oui, Marguerite Duras, elle m'a aidé beaucoup. Parfois, quand je lis ses livres, je me dis, mais je peux écrire comme ça, facilement.
C'est un piège, hein, presque.
C'est un piège. Et on commence, et on se dit, non, impossible. Parce qu'il faut maîtriser la langue pour écrire d'une telle manière. Et quand je dis maîtriser la langue, c'est pas seulement... savoir une langue, la grammaire d'une langue, c'est vivre dans la langue, comme il l'a fait.
Alors après 6 romans en persan, vous commencez à vous attaquer à la montagne, de cette langue française. Est-ce que vous vous sentez suffisamment à l'aise pour que ça devienne une langue d'écriture ?
Non, je ne me sens pas à l'aise. Même en persan, je ne me sens pas à l'aise.
Ah bon ?
Oui, mais parce que mon rapport avec la langue, c'est toujours un rapport... c'est pas très normal. Je dois toujours regarder les dictionnaires en persan, même en persan. qui est ma langue maternelle.
Oui, et si j'ose dire, puisqu'une petite vie a été traduite du Dari, votre langue a l'air assez simple, c'est pas du Duras, mais c'est pas une langue où chaque phrase, il faut ouvrir le dictionnaire pour dire, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ?
Et non, parfois c'est important, parce que j'aime bien trouver les racines du mot, des mots, par exemple. La langue, pour moi, c'est pas un moyen de communiquer avec les autres, c'est aussi créer une sorte de monde.
Vous avez un chat et voir un
j'ai un tigre.
Un tigre dans la gorge.
Oui, mais ça m'embête.
Il y a une expression en persan pour dire ça ou pas ?
Non. Non.
Parce que je vois que vous connaissez l'expression en français.
Non, il n'y a rien en persan, ouais. Mais.
En tout cas, dans le salon de votre imaginaire, Roslomani, il y a plein de références, dont celle-ci.
Well, what should we do now?
Well, you ring Diamond out of breakfast.
No, I don't want to do that.
Well, what do you want to do?
Lolita, version Stanley Kubrick.
Why don't we play a game?
Game? Oh, come on. Now, you get onto room service at once.
No, really. I learned some real good games in camp. One in particular was fun.
Rashomon de Kurosawa. Pour en sol majeur, donc un tout petit bout de ce qu'il y a dans la tête de notre invité, Roslomani. Donc Mercedes Sosa, je ne l'ai pas citée, mais elle était là, en filigrane. Donc pourquoi Mercedes Sosa ? Pourquoi Kurosawa ? Pourquoi Lolita ?
Parce qu'ils sont proches à mon corps. Kurosawa, peut-être pour la même raison que Satyajit Ray. J'aime bien sa vision. Lolita, pas le film. Le scénario de ce film était écrit par Nabokov lui-même. Mais ce n'est pas un film réussi, ni le deuxième. J'aime bien le livre. Et c'est ça parce que...
Non mais attendez, parce que là, c'est dommage de ne pas en savoir plus sur Lolita. Est-ce que Lolita est un livre subversif pour vous ? Vous qui vous êtes construit, qui vous êtes sauvé dans un sous-sol en Afghanistan. Pardon, je reviens sur ce passé que vous tentez de fuir, mais...
Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette...
Interprétation.
Nabokov, le pauvre, il a dit 1000 fois que je suis ni moraliste et j'aime pas être interprété comme ça ou être lu comme ça. Ce qui est important pour moi chez Nabokov, c'est sa prose, mais en même temps son monde fictif. C'est vraiment quelque chose qui n'existait pas avant Nabokov. Il l'a créé.
Alors en tout cas, vous êtes très attaché aux auteurs persans. Est-ce qu'il y a des auteurs arabes dans votre panthéon à vous ?
Je voulais dire que je ne suis pas très attaché aux auteurs persans.
Ah.
Il ne touche pas ces écritures. Mais les auteurs arabes, oui, j'aime bien 2-3 poètes arabes, palestiniens. Mais ce n'est pas comme ma relation avec la littérature occidentale.
Comment vous expliquez ça ? Vous êtes né dans un autre monde, et ce monde occidental, ce monde lettré occidental, vous a même été barré. Ça a été une route barrée par l'arrivée des talibans. Est-ce que c'est cet interdit, finalement, que vous bravez en aimant autant la littérature occidentale, inconsciemment ?
Peut-être. Voilà, je pense que le roman, c'est l'invention des Européens. Et voilà, les grands auteurs qu'on a en Europe, c'est pas comparable avec les écrivains persans, ni avec les Arabes. En Afghanistan, le premier roman, entre guillemets, a été écrit il n'y a pas même 100 ans.
En tout cas, vous êtes quand même proche, vous avez de la tendresse pour un certain Omar Khayyam, qui est un poète persan bien connu, un grand déçu d'ailleurs des religions et des hommes.
Voilà.
Vous le voyez comme ça, vous
oui,
aussi ?
Oui, oui, oui. Il est en même temps un peu épicurien, mais sa façon de vivre, de penser à vie, à la mort, à Dieu, et tout ça, c'est vraiment incroyable à cette époque-là, et ce qu'il a fait, ce qu'il pensait. C'est vraiment grand.
از آمدنم نبود گردون را سود و از رفتن من جاه و جلالش نپزود و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود که این آمدن و رفتنم از بحر چه بود
ای؟
آمدن و رفتن ما سودی کو از بافته وجود ما پودی کو
ای قم اگزیل
در چنبر چرخ جان چندین پاکان
Bah oui, ça s'invite forcément dans votre en sol majeur, ce mot, grâce à notre abécédaire, mais parce que vous jouez avec ce mot, Roslomani. Comment vous écrivez ce mot exil dans ce texte, premier texte en français pour vous ?
Je ne l'écris pas exil, je l'écris exil, avec un tiret entre ex et il, bien sûr. Parce que je pense que l'exil, c'est toujours l'histoire d'un jeu passé et d'un jeu actuel.
C'est pas du tout un texte sur l'exil.
Non, pas du tout. C'est l'exil lui-même.
C'est l'exil ?
Lui-même.
Je suis dans le noir, là. Moi aussi, je commence à avoir la même maladie que vous. Je commence à ne plus regarder le décor de la maison en sol majeur. Je ne sais plus ce qu'il y a dans cette maison. Alors, c'est un texte en fragments.
Oui.
Moi, je pourrais le présenter comme ça, qui s'ouvre... Sur l'innommable, c'est le premier chapitre, vous l'avez baptisé comme ça, l'innommable, qui se trouve être, il y a plein de synonymes, le chose, le serpent, la bête, le ver de terre, la queue, le singe, le dard. Bref, vous parlez du sexe masculin qui devient sous votre plume un personnage.
Exactement, et on le sait à la fin. Mais vous savez, dans ce livre, il n'y a pas d'homme, il y a... Toujours les choses ou les sentiments qui parlent. Il y a seulement à la fin du livre, il y a un « il » qui commence à parler. C'est peut-être moi.
Vous êtes esclave des choses ?
Parfois, oui. Je pense qu'on est esclave des choses. Ou même, on est des choses, comme disait Clarice Lispector.
Dans votre texte, donc, et dans votre univers, dans votre monde, c'est peut-être ça, ce monde dont vous êtes en train d'accoucher, Roslomani, les chaises se pâment, les tables parlent, les corbeilles à papier se plaignent, c'est-à-dire que les objets donc, sont animés. Mais il n'y a pas que les objets qui sont vivants, si j'ose dire, ou qui s'animent. Il y a aussi le rêve. Un rêve s'interroge sur son propre rêveur. C'est-à-dire que là, vous semez le trouble sur toutes les identités. Il n'y a plus d'identité, finalement. Plus personne, plus aucune chose, plus aucun homme, en tout cas, ne peut avoir une identité dans votre monde, Roslomani. Pour quelle raison ?
Dans ce monde, je peux dire que c'est à cause d'exil, peut-être. Vous savez, l'exil, ça commence quand il n'y a plus d'identité, de nom. On perd beaucoup de choses pendant le trajet. Voilà, c'est pourquoi que...
Donc vous racontez une forme de mort qui a eu lieu au moment du départ, de quitter une terre...
Et arriver sur une autre terre.
Et d'anéantir tout ce qui a existé pour vous sur cette terre. C'est trop douloureux pour vous que ça reste vivant dans votre tête? Vous les tuez à coups de mots dans vos textes?
J'essaye de le faire. Parce que ça me dérange, le passé, les souvenirs du passé. Parfois, j'aime bien être dans un autre corps et ne pas expérimenter toutes ces choses. J'aime bien me débarrasser de tout ça.
Mais alors, l'exil, tel que vous le concevez, pose une question fondamentale. C'est quoi être quand on est en exil ? Vous avez 2 heures.
C'est très difficile, une question philosophique.
C'est de votre faute, hein, Roslo.
Oui. je sais pas.
Mais c'est une question.
Il arpente tout nu son monde de 20 mètres carrés. Fermez les yeux, tournez la poignée de la porte, entrez doucement, ouvrez les yeux. Regardez la fenêtre, le lit dévasté au coin de la pièce, la petite cuisine avec un évier et quelques ustensiles, la boîte à œufs et le sac à pommes de terre et du riz et l'huile de tournesol, et le sel et le piment. Tournez un peu. Regardez la chaise boiteuse, la table et les livres, le dessin, le clim rouge et blanc étalé sur le plancher, les toilettes au bout de la pièce, les murs, les chaussures, l'armoire, l'ordinateur, le vieux tourne-disque, la lampe de chevet, les valises, la poubelle et les bouteilles vides. Fermez encore les yeux et pensez aux choses que vous ne pouvez pas voir, comme lui, qui arpente tout nu, de long à large, son monde de 20 mètres carrés.
Un petit peu de Nocturne de Chopin pour nuancer cette sensation qu'on a en vous lisant dans Exil, Rosromani, pour en sol majeur sur RFI. Être, on a peut-être un bout de réponse, c'est par définition être dans une prison pour vous.
Vous savez, ça peut être une sorte d'interprétation religieuse ou mystique, je peux dire.
Comment ça ?
Les gens qui croient au mysticisme, c'est une sorte de... Le monde, c'est une sorte de prison. Être au monde, c'est être dans une prison. Je peux le dire, mais un peu différemment. En fait, j'ai une interprétation laïque. Et on sait bien que la vie, c'est une sorte de douleur, comme disait Bouddha. Moi, je suis convaincu. Mais en même temps, on a besoin de vivre. On ne peut pas arrêter d'être.
Qui est-il ? Je le connais depuis sa naissance dans une autre ville. Je l'ai poursuivi pendant son horrible vie là-bas. J'ai couru avec lui jusqu'ici. Je l'ai même sauvé d'une blessure qui aurait pu signifier la fin de sa vie. Une blessure inattendue, qui par hasard n'était pas ma messagère. Je vis avec lui dans son petit studio. Il est écrivain. Il est exilé. Il est triste. Alors ça, c'est la mort qui parle sous votre plume dans ce texte Exil. La mort à laquelle vous avez quand même échappé peut-être en 2015, lorsque vous étiez menacé par les talibans. Donc je l'ai lu finalement dans la presse, parce que vous faites des mystères, mais pas tant que ça. Vos activités de journaliste qui réclamaient justice après qu'une jeune fille ait été tuée en plein cœur de Kaboul par une foule apparemment endoctriné par les talibans.
Par la religion.
Voilà. Cet événement vous a valu de vous enfuir de l'Afghanistan. Est-ce que, à travers ce texte, depuis cet événement, vous décidez de faire parler la mort ?
Non, non, non. Je pense que la mort, ça a été toujours présente dans mon travail, dans mes pensées. Mais cet événement, pour moi, c'était vraiment un choc incroyable. Une jeune fille était tuée d'une façon barbare à Kaboul, au centre, et brûlée après. On ne pouvait pas croire à ce que se passait à Kaboul à ce moment-là. Imaginez la nouvelle génération de ce pays. La présence de la communauté internationale en Afghanistan. Et cet événement, cet accident, je peux dire, c'était pas facile à comprendre. Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai écrit, L'Exil, mais je viens de publier un autre livre en persan qui est dédicacé à cette jeune fille, Farhonda, qui était tuée en Afghanistan. Et voilà, c'est dans ce livre que je parle d'elle. Mais d'une manière indirecte, ça veut dire que là, je parle de cette femme endeuillée qui veut créer un autre Kaboul après la mort de Farhonda.
Qu'est-ce qu'un éditeur français attend, à votre avis, d'un auteur afghan aujourd'hui ?
l'Afghanistan ou les pays comme l'Afghanistan sont les sujets médiatiques. Ça veut dire qu'il y a, toujours la guerre, les femmes voilées, les femmes...
Donc ça, c'est pas votre fond de commerce, vous ?
Non, pas du tout. D'une façon ou d'une autre, on est obligé de parler de toutes ces choses, peut-être juste parler. Mais moi, c'est pas mon travail. Moi, j'écris et j'écris ce que je veux.
Comment le journaliste que vous êtes aussi, notamment chez nos confrères de France 24, comment ce journaliste se sent en travaillant au service Info Migrants ?
Bah écoutez, c'est le destin. C'est toujours avec moi. Ça veut dire que je suis en train de fuir des douleurs de migration et de toutes ces choses. Et voilà, je me trouve dedans.
En sol majeur, @rfi.fr.
Au générique de cet ensemble majeur consacré à Hosromani, une petite vie donc traduite du Dari, publiée aux éditions Intervalle. Et puis on attend donc L'Exil en français, premier texte en français, publié prochainement.
Oui, j'espère.
Est-ce qu'on finirait sur le swing de Miss Ella Fitzgerald avec It's Only a Paper Moon ? Donc vous avez du swing en vous quand même.
Oui, c'est vrai.
It's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me.
Say it's only a paper moon, sailing over a cardboard sea. It's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love,
it's a honky.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast avec notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste. Chaque samedi et chaque dimanche, à 14h10, temps universel, 16h à Paris, Caroline Filliette, Laura Pinto, Thibaut Baduel, Yasmine Chouaki. On vous retrouve, et on vous espère d'ailleurs la semaine prochaine, avec Christian Lara. À la semaine prochaine.